Et donc, nous venons de chanter ce désir-là de notre âme. Nous venons toujours de chanter ce chant-là de nos cœurs en ces mots. Pénètre, ô parole vivante, dit pénètre à mon cœur. Pénètre à mon cœur. Hébreux 4:12, je pense que vous connaissez très bien, nous dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle quoi? Elle pénètre jusqu'au point qu'elle sépare âme et esprit, dit la parole de Dieu. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. La parole de Dieu pénètre. Daigne m'instruire, dit. Et on a envie de chanter, daigne m'instruire. Et vous connaissez, je pense très bien, ce verset aussi qui dit dans 2 Timothée 3:16. Un autre 3:16. Moi, des fois, pour ne pas oublier les versets, je mémorise un peu Jean 3:16, 2 Timothée 3:16, c'est important, c'est quoi? Toute parole, toute écriture est inspirée et utile pour instruire dans la justice. Dans ma justice? Non, dans la justice de Dieu. Donc, toute parole est inspirée de Dieu. J'ai besoin de la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous avons besoin tous de la parole de Dieu pour vivre selon sa volonté. Vous êtes d'accord avec moi avec ça? Pour vivre selon sa volonté. Et nous sommes bénis parce que Dieu nous a donné sa parole. Je dis toujours, souvent, que ce livre-là a passé au travers des époques. Et puis, on a encore là, la parole vivante de notre Dieu. Puis, on peut apprendre et puis on peut s'approcher de lui avec assurance. Et apprendre à vivre selon sa volonté. Nous vivons dans ce monde qui rejette les principes bibliques. L'apôtre Paul même écrit que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Jacques mentionne aussi dans son épître, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde, sera en quoi ? Ennemi de Dieu. C'est fort ce mot-là. Celui donc qui veut être ami du monde, il sera ennemi de Dieu. Jésus a même dit, celui qui part avec moi, il est contre moi. L'apôtre Jean va encore plus loin quand il écrit, n'aimez point les choses du monde. Tout ce qu'il a dans le monde, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un aime le monde, dit, l'amour du Père n'est point en lui. Il est ennemi de Dieu et en plus de ça, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Mais pourquoi le monde est si mauvais? Et bien entendu, quand on dit monde, on ne dit pas la nature, la création. Oui, c'est bon, le Seigneur a tout créé ça, mais quand on parle du monde, c'est vraiment le système, la pensée du monde qui de laquelle on est entouré à chaque jour. Mais pourquoi ce monde est si mauvais? Nous sommes, on peut lire dans l'apôtre Jean qui écrit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pour ça que le monde est si mauvais, parce qu'il est sous la puissance du malin. Jésus même l'a dit, le prince du monde c'est le diable. Nous sommes dans un monde où on appelle le mal bien et le bien mal. Un peu comme Ésaïe, il parle. Est-ce que vous pouvez donner des exemples là-dessus? Je pense que de nos jours, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut un peu dire. Des choses qui sont mal, le monde l'appelle bien. Et des choses qui sont bien, le monde l'appelle mal. C'est au contraire à l'enseignement biblique. C'est pour cette raison, frères et sœurs, et c'est pour cette raison que nous devons faire attention avec la pensée du monde et laisser influencer. Nous devons plutôt chercher, moi je dois plutôt chercher à savoir ce que Dieu attend de moi, et ce que Dieu nous demande. Et on peut trouver ça où? Dans sa parole. Romains, l'apôtre Paul écrit dans Romains 12, 2, vous connaissez très bien ce verset, « Nous ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Encore une fois, « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Ne vous conformez pas au monde présent. C'est le sujet du message ce matin, frères et sœurs, et amis qui nous visitent, Le passage aujourd'hui est dans le livre du prophète Michée. Et dans, on va spécifiquement aller dans le chapitre 6. Et je vous invite déjà à ouvrir vos Bibles et marquer, là, mettre votre séparateur dans le chapitre 6 du prophète Michée. C'est le sixième. Okay? C'est, on n'est pas trop habitué à aller là-dedans, là, mais c'est un, on appelle le petit prophète, mais c'est un grand petit prophète. Michée, chapitre 6. En fait, ce chapitre-là, mes frères et sœurs, répond à une question. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'il me demande? Nous allons donc étudier les versets de 1 à 8 dans ce chapitre. Mais avant, on va juste voir un petit aperçu de qui est Michée. C'est qui c'est Michée? D'ailleurs, son nom veut dire qui comme l'Éternel? Qui est comme l'Éternel? Ça veut dire ça, Michée. Si vous cherchez un nom pour votre enfant, voilà un très bon nom. Qui est comme l'Éternel? Michée. Il était un prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ. On parle du 8e siècle, dans 7 ans, 6 ans, donc ça veut dire qu'il était contemporain avec Ésaïe, avec le prophète Ésaïe, qu'il prophétisait pour Jérusalem. Puis aussi, il était contemporain avec le prophète Amos et Osée, qui prophétisait pour le royaume du Nord. Déjà, le royaume était déjà séparé par le Nord, la capitale Samarie, et le Sud, c'était Juda, la capitale Jérusalem. Donc, il était contemporain à ces prophètes-là aussi. Il était un homme de la campagne. On peut voir ça dans le verset 1, là, déjà, qui est originaire d'une ville qui s'appelle Moréchet, au sud de Juda. C'est un homme de campagne. Au temps de Jotam, d'Akaz, Ézéchias. Ézéchias, ça vous dit beaucoup de choses. Ézéchias, le roi d'Ézéchias de Juda. Et on peut voir tout ça dans le chapitre 1. Spécifiquement, la Bible nous dit que ce prophète a vécu dans ce temps-là. Il était à peu près dans ce temps-là. Jotam, Akaz, Ézéchias. C'était le sixième des petits prophètes dans nos Bibles. Et il peut être comparé aussi à Ésaïe quant à son éloquence, à la façon de parler, à sa façon de poser des questions rhétoriques. Et c'est très semblable à Ésaïe. Et le contenu du livre, on trouve dans ce livre certains textes, le plus connu de l'Ancien Testament, qui décrivent l'élévation, mettons, comme la montagne de Dieu, dans le chapitre 4, du verset 1 à verset 5, et qui annonce un roi qui viendra de Bethléem, qui ne connaît pas ce verset de Michée 5, 1, et qui cite les traits de Dieu, que Dieu désire de son peuple, dans le chapitre 6, le verset 6 à 8, ce qu'on va étudier ce matin. Son message s'adresse à Samarie et à Jérusalem, capitale des deux royaumes. C'est ça le message adressé de Michée. Si l'on fait une comparaison avec le livre d'Amos, on constate aussi que Juda était atteint par le péché d'Israël, du royaume du Nord. Et Dieu demande à Michée de communiquer son message de jugement à son peuple. Israël et Juda étaient tombés, étaient éloignés de la voie du Seigneur. Et ils se sont attirés la colère de Dieu. Il y avait des péchés cultuels qu'on appelle, c'est-à-dire le péché du culte. Il y avait beaucoup d'idoles, beaucoup de sacrifices à d'autres dieux. Ainsi, il y avait du péché d'ordre social aussi. Il y avait beaucoup d'injustices dans ce temps-là. Et on le voit dans le chapitre 2. Et c'est bon de pouvoir lire tous les chapitres comme ça, tout le livre de Michée pour voir vraiment quel est le contexte. Et le chef civil, religieux, les prophètes étaient éloignés, vraiment ils rejetaient les voies de Dieu. Et nous pouvons voir très clairement l'attitude. Dans le chapitre 3, verset 11, il dit « Ses chefs jugent pour des présents. Ses sacrificateurs enseignent pour un salaire. Ses prophètes prédisent pour de l'argent et ils s'appuient sur l'Éternel en disant « L'Éternel n'est pas au milieu de nous, le malheur ne va pas nous atteindre. » Donc, ils croyaient même dans leur erreur qu'ils faisaient bien, même. Ils étaient tout confus. Étaient tous corrompus. Et c'est dans ces contextes-là que le prophète Michée est envoyé par Dieu. Allons donc au passage, dans notre passage de chapitre 6, versets 1 à 8. Et dans la plupart des Bibles, ces paragraphes ont comme mention, comme titre, « Procès de l'Éternel avec son peuple ». le procès de l'Éternel avec son peuple. On peut voir aussi un titre comme « Le Seigneur accuse son peuple » dans d'autres versions. Mais dans la version que nous utilisons ici à l'Église, en majorité, c'est la Bible selon la version Colombe. Et ce titre est marqué là, « Le procès de l'Éternel avec son peuple ». Et voyons la forme qui prend ces procès du verset 1 à 8. Vous pouvez comparer aussi Deutéronome 32 au psaume 50. C'est à peu près la même construction. Et ces procès prennent une forme de cette manière-là. Des témoins. Il appelle à des témoins. Dieu appelle des témoins. Du verset 1 à verset 2. La plaidoirie de l'accusation du verset 3 à verset 5. La plaidoirie aussi de la défense du verset 6 à 7. Et la sanction, mais avant la sanction, il y a la grâce de Dieu dans cette sanction-là, dans le verset 8. Donc, sans plus tarder, on va maintenant aller dans notre texte, les témoins. Lisons, on va lire Michée, chapitre 2, du verset 1 à 2. Donc, je m'en vais au chapitre 2, chapitre 6, pardon, chapitre 6, verset 1 à 2. Michée 6, chapitre 1 à 2, pardon. C'est bon? Vous avez tous votre Bible? Dans Michée dit, écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi entre en procès avec les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel. Et vous, immuable fondement de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut contester avec Israël. Je pense que c'est clair ces deux versets-là. C'est un procès qui a l'Éternel envers son peuple. Demander à des éléments qui sont inanimés d'être témoins de ce procès-là, c'est courant quand même dans l'Écriture. Dans Deutéronome 4, 26, on peut lire, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » C'était courant. Dieu utilise ce langage-là. Chaque fois que Dieu s'engage dans un procès avec son peuple, ce n'est pas pour le condamner, sinon pour chercher vraiment que le peuple se repent et revient à la voix du Seigneur. Ésaïe écrit dans ce temps-là aussi, dans le verset 18 du chapitre 1, il dit, « Venez donc et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront quoi? Blancs comme la neige. » Le Seigneur cherche toujours à nous pardonner, à nous faire revenir dans sa voie. C'est un Dieu des grâces. Il cherche à nous raisonner. Et Dieu merci, c'est pour ça qu'on a sa parole. Pour qu'on puisse raisonner, entre en raison, et la chercher, et pouvoir chercher comme on vient de lire. Elle pénètre au fond de nous. Elle veut, dans ce passage-là, Dieu veut raisonner son peuple. Et donc, il appelle au témoin comme un procès. On va voir... Et on va lire maintenant du verset 3 à 5 les plaidoiries de l'accusation. Dans le verset 3 à 5, il dit, « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai racheté de la maison de servitude. Et je t'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi des Moab. Et ce qui lui répondit Balaam, fils de Béor, depuis Chittim jusqu'à Gilgal, afin que tu reconnaisses les actes de justice de l'Éternel. » Nous sommes bien dans un contexte d'un procès. On dirait un interrogatoire. Il dit, réponds-moi, dis-moi. Dieu demande à son peuple, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu t'es éloigné? Pourquoi tu m'as laissé? Mes exigences sont si difficiles que ça? J'ai pas tenu mes promesses envers toi? Ça me fait beaucoup penser à l'épisode quand le peuple d'Israël demande un roi pour le peuple d'Israël, pour eux-mêmes, au prophète. Puis ce prophète-là était triste. Puis Dieu lui dit, écoute, il faut pas que tu sois triste là. C'est à toi qu'ils ont rejeté? Non, c'est à moi. C'est leur roi. Ils m'ont rejeté. Maintenant, ils veulent un roi. C'est à peu près le même sentiment. Je vois un peu des paroles attristées de Dieu. en posant des questions à cette créature, à ces gens qui étaient rebelles à sa parole. Et puis on peut voir, non seulement le Seigneur a délivré son peuple de l'esclavage, mais lui, il a donné aussi des dirigeants pour le conduire. Qui c'était ces dirigeants-là? Moïse, Aaron, Myriam, dans ce verset. Dieu était leur protecteur, à point même que les ennemis ont béni ce peuple-là, comme Balaam. Et quand il parle des Chittim, qui fut la dernière étape des Israélites avant de traverser le Jourdain, et Gilgal évoque la traversée vraiment. Il est en train d'évoquer la traversée du Jourdain, miraculeuse, avant la conquête du pays promis. Il est en train de rappeler ces choses-là à ce peuple-là, qui était éloigné de lui. Dans cette plaidoirie, Dieu évoque les bienfaits. Il y a un chant qui dit « Compte les bienfaits ». Ils sont innombrables. Et le verset 5, il dit « Afin que tu reconnaisses les actes de justice de l'Éternel ». Souvent, on oublie, hein, frères et sœurs, des fois, quand on est dans une réunion de prière, on dit « Bon, je vais laisser maintenant le temps de louange ». Et puis, on commence à y penser. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu, là? Et puis, 30 secondes, 25 secondes, il n'y a personne qui... On oublie vraiment vite ce que le Seigneur fait pour nous. Et Dieu est en train de le rappeler. Tous les actes de justice à ce peuple-là. Et c'était des grands miracles. Il avait fait quoi? Traverser le Jourdain. Il avait fait sortir de l'esclavage. Comme nous, on était dans l'esclavage, sous le péché. Mais le Seigneur nous a sauvés par Jésus-Christ. Maintenant, nous allons voir du verset 6 à 7 la plaidoirie de la défense. Et c'est particulier ici parce que on dirait que Dieu prend, le prophète Michée prend la place de ces Israélites-là, en posant des questions même à Dieu. Mais Dieu sait toutes les réponses. Et c'est pour ça qu'il dans ce chapitre-là, dans ce verset-là, il pose des questions, puis sont vraiment des réponses claires. On dirait que la réponse est dans la question. Allons lire versets 6 à 7. « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? M'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de billets, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mon cri mon premier-né? Et mon propre péché, le fruit de mes entrailles. » Je dirais que c'est le peuple qui pose des questions. Comment je vais plaire à l'Éternel? Comment je peux encore entrer en communication avec le Créateur? Comment je peux être acceptable, agréable à ses yeux? Quelles sont exactement ses exigences? Le peuple avait perdu tout ça, là. Qu'en est-il de moi? Qu'attend-il de moi, le Seigneur? Michée enseigne aux Israélites que les exigences divines ne se résument pas juste à des sacrifices. Déjà, il avait donné beaucoup de lois pour les sacrifices. Mais Michée est en train d'enseigner le peuple que ces exigences et les sacrifices, c'est pas ça qui vraiment plaît à Dieu, qui plaît à l'Éternel. Comment je puis rentrer en communication? Michée était sans conteste quelqu'un de pieux devant Dieu, sur tous les aspects. Mais il savait aussi que le rituel de la loi était important. Il devait être une expression extérieure de quelque chose intérieur, une attitude démontrant la dépendance à la grâce de Dieu, leur dépendance à la grâce de Dieu, était en train de leur montrer que les sacrifices étaient quelque chose qui venait du cœur. OK? Qui venait du cœur, ils faisaient ça parce qu'ils reconnaissaient leur culpabilité. Pas pour faire quelque chose comme une pratique religieuse. Michée est en train de montrer ça. En fait, l'homme qui recherche s'approcher de son Créateur par les choses qu'il fait, il est perdu. On le voit de la façon comment le Seigneur nous sauve, par sa grâce. Souvent, quand on présente l'Évangile, on dit qu'on est programmé, selon ce monde aussi, à faire quelque chose pour recevoir quelque chose. C'est vrai? On travaille pour avoir l'argent, on étudie beaucoup pour avoir des bonnes notes. Les enfants, on est très sages pour ne pas être punis. Donc, on fait quelque chose pour recevoir quelque chose. Puis des fois, on pense qu'on peut agir de la sorte avec Dieu, en faisant des choses comme le peuple croyait que juste en faisant des sacrifices, il allait être pardonné. Puis Dieu allait passer outre leurs péchés. Mais Dieu cherchait vraiment l'attitude de leur cœur, leur repentance. Un jour, des gens comme celle de Miché ont posé la question à Jésus. On peut voir ça dans Jean 6, 28. Il demande, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous? Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous? Et le Seigneur lui répond dans Jean 6, 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en lui, en celui qui m'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire en Dieu. Ce que Dieu demande vraiment, c'est de lui faire confiance, avoir la foi. Pas seulement une adhésion intellectuelle, vraiment avoir la foi, qui ça prend toute notre personne, notre intellect, nos pensées, nos cœurs, même nos façons de vivre. Il veut vraiment ça, Dieu, que ce soit la priorité, avoir la confiance en Dieu, mettre notre confiance entière. Il voulait que ce peuple mette leur confiance en lui. Ce n'est pas les rites ou les sacrements qui rend acceptable à Dieu. Comme nous, assister religieusement à l'Église, participer dans le fonctionnement de l'Église, mes offrandes, occuper des orphelins, sont des très bonnes choses, mais elles ne pourront jamais contrebalancer nos péchés. Vous êtes d'accord avec ça? On fait ça par grâce, on fait ça par reconnaissance à Dieu, pour ce qu'il a fait. Les Israélites étaient disposés à faire des offrandes et même de donner des milliers, des béliers, des torrents d'huile pour couvrir leurs fautes. Alors, ils étaient prêts même à donner, dit le verset, ils étaient prêts à donner le plus cher, leur premier-né, leurs enfants. Ces communautés étaient des nations païennes. Si on voit dans 2 Rois 3, 27, ils sacrifiaient leurs enfants. C'était comme on voit dans le dieu Moloch, là. Malheureusement, 2 rois, de Jérusalem ont fait ça. Vous connaissez ce passage-là, Akaz et Manassé sont mentionnés pour avoir sacrifié un de leurs enfants. Dans 2 rois, on peut voir ça dans 2 rois, chapitre 16, en se détournant de Dieu. Et c'était une pratique qui était interdite. On peut voir un extrait dans Lévitique 18, 21. Tu ne livreras pas un de tes enfants pour les sacrifier, pour les sacrifices à Moloch, car tu déshonores Dieu. Je suis l'Éternel. Et même si un membre du peuple d'Israël faisait ça, il était puni à mort, selon Lévitique 22. Donc, ces questions-là que Miché pose, c'est pour montrer aux Israélites que rien, même les comportements les plus extrêmes, ne pouvaient expier leur faute. Ils voulaient racheter ses péchés avec ce qu'ils faisaient. Mais en réalité, c'est que Miché était en train de leur enseigner qu'ils changent leur attitude et même leurs actions. Puis on va maintenant lire le dernier verset de ce chapitre 6. La sanction, selon un thème de procès, là, ce qui vient, c'est la sanction. Mais avant la sanction, on voit la grâce de Dieu. C'est un Dieu des grâces. Il nous fait grâce. Puis ce verset que vous connaissez très bien, et puis que c'est très connu dans ce livre du prophète Miché. On va prendre le temps de le lire. Verset 8, s'il vous plaît. Et même, il y a des gens qui vous connaissez ça par cœur, non? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Ce que tu pratiques, quoi? Le droit ou la justice. Que tu aimes la loyauté ou que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ça, ces trois choses-là. On t'a fait connaître aux hommes. Aux hommes, c'est quand il est en train, à tous les peuples d'Israël. Ce qui est bien. Oui, c'est bien, mais ce que l'Éternel demande, ce que l'Éternel attend de nous, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté, la miséricorde, et que tu marches humblement devant ton Dieu. L'Éternel devrait, normalement, dans un temps des procès, devrait annoncer un châtiment et punir son peuple, mais il appelle à changer d'attitude en obéissant de tout son cœur à Dieu. Il voulait vraiment attirer le cœur de ce peuple-là pour qu'il se répande. Ce verset contient une des expressions les plus concises, les plus puissantes des exigences de Dieu dans la Bible. En fait, c'est un texte qui est adopté par la tradition juive comme le résumé de la loi. C'est vraiment particulier ce texte-là de Michée 6:8. Mais malheureusement, on peut voir plus loin que le mauvais comportement, puis les Israélites refusent de se repentir. Puis il y a une sanction, si vous pouvez lire après le chapitre 6, du 9 à 16. On voit la sanction qui vient, mais Dieu fait l'avertissement. Dans sa grâce, il avertit le peuple. Il fait connaître au peuple. On t'a fait connaître aux hommes, ce qui est bien pour l'Éternel. En fait, ça se résume à deux choses. Leur motivation et leur attitude du cœur. Leur motivation et leur attitude du cœur. C'est exactement ce que Jésus demande beaucoup d'années plus loin aux scribes et pharisiens de l'époque. Et prenons le temps, s'il vous plaît, d'aller voir dans Matthieu 23:23. Matthieu 23:23. Prenons encore le temps de lire ce verset-là. C'est exactement ce que Jésus demande à ces scribes et pharisiens. Des centaines d'années plus tard. Et ça commence par une mauvaise note, là, ce verset-là. Matthieu 23:23 dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, quoi? Le droit ou la justice, la miséricorde, et la fidélité. C'est qu'il y a le plus important dans la loi. Mais en plus, c'est important ce que Jésus dit. C'est là qu'il fallait pratiquer, sans laisser de côté le reste. Il y avait des sacrifices que le peuple, il fallait qu'il fasse. Mais l'important, c'était l'attitude du cœur du peuple. La repentance. Les Israélites du temps de Michée, ils ne manquaient pas d'informations. Ils avaient dans leur possession la loi de Moïse, qui était spécifiée aussi dans la loi de Moïse. Dans Deutéronome 10:12, ils pouvaient lire eux-mêmes, « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de quoi ?» De tout ton cœur et de toute ton âme. C'est ça qu'il demandait. C'est ça qu'il est en train de dire, Michée, à ce peuple-là qui avait complètement oublié ses enseignements. Et même en temps de Michée, il y avait d'autres prophètes qui répétaient un peu le même message. Osée est le prophète qui a parlé de l'importance de l'amour et de la bonté. Et Amos, qui est contemporain aussi, a insisté sur la droiture et la justice envers les prochains. Et Ésaïe aussi, en particulier, dénonce l'orgueil de l'homme, qui place sa confiance en ses propres ressources pour plaire à Dieu. C'est que Ésaïe dénonce. Sans une telle attitude, frères et sœurs, ces peuples-là, les sacrifices et tous les rites sont des coquilles vides devant l'Éternel et qu'il les rejette. On peut voir. L'exemple de Saül, vous vous rappelez l'exemple de Saül, quand Samuel lui dit, L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la soumission, humble soumission, vaut mieux que la graisse des béliers. Osée dit, car je veux la loyauté ou l'amour, car je veux l'amour ou la loyauté et non le sacrifice. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. En résumé, ce que le Seigneur veut enseigner à son peuple, c'est qu'il pratique la justice plutôt que de continuer la trace de l'injustice. On peut voir tellement de versets dans le chapitre 2, de 1 à 2, chapitre 3, l'injustice qui était vraiment au milieu de ce peuple. Il voulait qu'ils aiment la bonté, pratiquer l'amour loyal, en s'engageant mutuellement comme lui l'avait fait. Il s'avait engagé avec son peuple. Il voulait qu'il marche humblement avec lui. Qu'il se confie et qu'il dépend de lui vraiment, plutôt de compter avec leur fierté et eux-mêmes. C'est ça veut dire marcher humblement devant Dieu. Humblement reconnaître que c'est justement Dieu. Reconnaître que par nos efforts, on ne peut rien faire. Vous savez, Amos 3:3 mentionne que deux hommes marchent-ils ensemble sans avoir convenu? Il dit que deux hommes marchent-ils ensemble sans avoir convenu? Est-ce que vous pouvez marcher, mettons, sur la rue, vous voulez marcher avec quelqu'un sur la rue, puis quelqu'un est en train de marcher, vous ne connaissez pas, vous vous accotez, puis vous marchez avec lui? Je ne pense pas, non? Pour marcher avec quelqu'un, il faut vraiment le connaître. Ou établir au moins une relation. Ou au moins vouloir le connaître. Wendy me dit toujours, ma femme, que quand j'étais son fiancé, oui, son fiancé, quand on s'est fréquenté, quoi. Il dit, mais quand on s'est fréquenté, tu aimais beaucoup marcher avec moi. On marchait. Et c'est vrai, je marchais, puis c'était l'amour total. Je ne me rendais pas compte des kilomètres que je marchais parce que j'étais intéressé, je l'aimais, je l'aime aussi. Faites attention. Et encore. Mais, des fois, comme Apocalypse dit, nous avons oublié le premier amour envers notre Dieu. Et c'est vrai qu'on cherche à marcher avec quelqu'un parce qu'on l'aime, on veut être avec sa compagnie. Et ce n'est pas grave de marcher des kilomètres. Et ce n'est pas grave si le chemin est difficile. Mais en autant qu'on soit à son côté, on est prêt à marcher sur même des charbons ardents. Oui, non? Le mari? Non, il n'y a personne qui a... Peut-être le fiancé, oui. Donc. Et le verbe traduit pour marcher humblement avec Dieu n'apparaît qu'ici, dans l'Ancien Testament. C'est construction des phrases. Marcher humblement avec Dieu, en reconnaissant que c'est juste lui, par sa grâce. Cependant, l'humilité est un concept qui revient très souvent dans les Écritures. Revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. L'Éternel est bon et droit. Psaume 25, 8 à 9. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. La dernière partie de ce verset, marche humblement avec Dieu. Marcher humblement avec Dieu, c'est primordial, c'est important. Je ne peux pas éviter de penser à notre Seigneur Jésus. Sa marche ici sur terre et sa complète soumission envers son Père. Je ne peux pas laisser des pensées, de ne pas penser à l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ. Marcher humblement avec son Dieu, c'est un bon exemple, c'est l'exemple à imiter. Et lui-même nous demande de l'imiter. Vous vous rappelez, quand il a lavé les pieds des disciples, est-ce qu'il a dit de faire de même? Il avait toujours les pieds des disciples? Non, il a dit de prendre cette attitude de serviteur, humble serviteur. Marcher humblement devant Dieu, c'est une attitude du cœur. motivé par sa grâce en réponse de son amour. Marcher humblement est une attitude du cœur motivée par sa grâce, à cause de sa grâce. C'est pas que nous l'avons aimé en premier, c'est lui qui nous a aimé en premier, en réponse de son amour. Et l'apôtre Paul nous exhorte à avoir ces mêmes attitudes, hein, dans Philippiens 2, 5 à 8. L'apôtre Paul nous exhorte à avoir la même attitude de Jésus. Ayez en vous la pensée, l'attitude, les mêmes sentiments. Ayez en vous la pensée, l'attitude, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui donc, la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais quoi? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant. Jusqu'à la mort de la croix. C'est l'exemple même de notre Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on répond à la question? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'il demande de nous? Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme le Seigneur a marché. Et l'enseignement de ce matin, mes frères et sœurs, c'est que nous devons marcher comme lui a marché. C'est notre modèle par excellence, le Seigneur Jésus-Christ. Humblement. Sans compter par nos forces, par nos capacités, vraiment en confiant en Jésus-Christ pour qu'il puisse nous aider à notre marche, sans nous laisser influencer par ce courant, par le monde. Et comment on peut le faire? En cherchant à le connaître par sa parole. Nous devons lire la parole de Dieu à tous les jours pour pouvoir avoir à répondre à, notre foi. Il y a des gens qui vont nous demander: mais en quoi tu crois? Qu'est-ce que ça veut dire? On peut répondre à ces gens-là. Puis on peut vraiment, mes frères et sœurs, aller contre cette pensée du monde, qui est de plus en plus et plus corrompue. Mais par sa grâce, nous avons sa parole pour faire sa volonté. Amen.